Voici les titres du journal.
L'association Montezane Antonio Epifani va égayer les enfants du CHUV. Elle a prévu demain de décorer certains étages de l'hôpital. Les fromages d'alpage ont des spécificités. Baptisé Typicalp, un projet de la HESS au Valais-Vallis a étudié scientifiquement ses caractéristiques afin de mettre en valeur un savoir-faire à protéger. La justice valaisanne doit se moderniser. C'est le constat d'un bureau d'experts mandaté par le canton. Une dizaine de solutions sont désormais sur la table. Le dossier de notre correspondant parlementaire Serge Jubin s'intéressera aujourd'hui au bouclement de la réforme AVS qui verra l'âge de la retraite pour les femmes passer à 65 ans. En hockey sur glace, les joueurs de l'équipe de Suisse patinent toujours après leur efficacité. Et en biathlon, le Bellerin Valentin Dauphin veut profiter de l'hiver pour poursuivre son apprentissage sur le circuit junior de la Coupe du Monde.
Et pour la météo, ben du stratus en plaine, du soleil en montagne, et ça sera la même chose pour ce week-end. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Thierry Nicolet. Bonjour Thierry.
Bonjour Axel et bonjour à tous. Le Grand Conseil valaisan a adopté ce matin le budget 2022 du canton. Il l'a fait par 129 oui, 0 non et 0 abstention. Un budget qualifié de manière générale d'équilibrée par les partis et qui a subi de nombreux ajustements au fil des débats de la semaine. Ministre des Finances, Roberto Schmitt s'est dit satisfait de le voir aboutir alors qu'il est fortement impacté par les incertitudes en lien avec la pandémie. Le conseiller d'État s'est aussi félicité que des signaux positifs puissent être envoyés à l'économie et à la population, qu'il ait pu être renoncé à des programmes d'économie, que des investissements records figurent au programme. Mais le Valaisan a cependant prévenu le Parlement. Dès 2023, il va falloir resserrer les cordons de la bourse.
Voilà, j'ai pas de relance.
Vous n'avez pas de relance, c'est marrant. Non, moi je vais la lire moi, désolé.
Désolé, Thierry.
L'association Montezane Antonio Epifani amène l'esprit de Noël aux enfants du CHUV. Pour mémoire, elle a été créée en 2015 et porte le nom de son fondateur, aujourd'hui décédé, qui souhaitait égayer les services pédiatriques des hôpitaux. Pour atteindre ce but, l'association va distribuer des doudous aux nouveau-nés malades demain. Elle va offrir également des sachets de gourmandise aux enfants hospitalisés. Mais l'organisation ne s'arrête pas là, puisque les fenêtres de certains étages du CHUV vont être décorées par des équipes spéciales. Daniel Vitaliano, président de l'association Montezane Antonio Epifani.
Et là, l'idée, c'est que cette année, ça sera plutôt un affichage qui va être réfléchissant. On va simplement décorer les vitres des différentes chambres avec quelque chose de coloré, proche de Noël au niveau de l'esthétique, on va dire. L'étiquetage sera fait par une société spécialisée, bien sûr, et nous, on sera présent le samedi pour remettre un petit peu de manière symbolique la somme d'argent qui a été récoltée avec une grosse contribution cette année du bar à beauté à monter. Et ensuite, l'installation sera faite par des professionnels.
Celles et ceux qui souhaitent contribuer à ces actions peuvent se rendre sur la page Facebook de l'association Association Antonio Epifani en un mot, un sujet réalisé par Guillaume Abbé.
Réaliser une cartographie des alpages valaisans et valdôtains.
Et procéder à des dégustations scientifiques de fromages pour pouvoir les expliquer et les promouvoir auprès des consommateurs. Voilà Typicalp, le projet Interreg Italo-Suisse mené depuis 2019 et piloté par la HESS au Valais-Vallis. Pour caractériser la typicité des fromages, c'est la méthode de l'analyse sensorielle qui a été utilisée. Janine Ressigen en est une spécialiste. C'est elle qui s'est chargée de cette partie-là pour la Haute École Valaisanne. On écoute le bilan qu'elle en fait.
Aujourd'hui, les résultats nous montrent que la typicité des fromages dans les alpages mesurés est différente, évidemment, entre le Val d'Ost et le Valais. Ça, on le savait, on le présupposait, mais les conditions financières du projet ne nous permettaient pas de monter deux jurys séparés, donc on avait un même jury pour faire ça. Et puis, la première année, on s'est vu, lorsqu'on a mis en place vraiment la méthode, mis en place les process après de contrôle en alpage, que dans certains alpages, par exemple, pour deux fromages d'une même cuve, on avait sur certains paramètres des résultats différents. Et ça, ça nous a montré que la répétabilité, voilà, il y avait un souci dans ces alpages-là. On a été voir leur process, beaucoup discuté avec eux. Et puis la deuxième année, eh bien, on a vu des phénomènes comme cela disparaître. Ça veut dire que dans une même cuve, les deux fromages qu'on a pris, eh bien, ils étaient beaucoup plus proches. Il n'y a pratiquement plus de différence. Après, il y a des différences par vallée, mais pas toujours significatives, sur des paramètres comme les arômes épicés. On a des vallées différentes et d'autres. On a des différences sur la couleur, par exemple des fromages plus jaunes, moins jaunes. Et puis tout ça, on n'a pas encore expliqué maintenant, hein, parce qu'il faudrait faire un rapport avec les fleurs ou peut-être avec la qualité du lait. Toutes ces analyses statistiques ne sont pas encore établies.
Reste cette question, Typicalp peut-il permettre de revaloriser la profession de fromager d'alpage, un métier quelque peu boudé par les jeunes? On écoute la réponse de Laurence Nicolai, chef de ce projet pour le compte de la HESS au Valais-Vallis.
Si vraiment le consommateur arrive à intégrer le fait que ce soit des produits de très grande qualité, ce sont des produits qui sont issus d'un savoir-faire traditionnel, ce sont des produits du terroir et qui méritent d'exister sur le marché et d'être valorisés sur le marché en tant que produits typiques et de grande qualité. Donc ça veut dire que là, normalement, le fromager, il est fier de fabriquer ce produit dans ce cadre-là, avec toute cette mouvance, cette lame de fond, on va dire, qui va vers les produits plus du terroir, des produits à circuit court, etc., produits biologiques aussi. Bien. Donc je pense qu'on peut avoir quand même un certain attrait ou un regain d'attrait pour ces produits-là dans la mesure où vraiment on les valorise dans leur qualité. Alors il y a la qualité organoleptique, mais il y a aussi toute cette qualité au niveau des processus de production, la traçabilité pour assurer la sécurité du consommateur.
6 alpages en tout ont participé à ce projet typique Alpes, 3 dans le Val d'Ost, les 3 autres en Valais, 1 au-dessus de Cromontana, les 2 autres dans le Val de Bagne. C'était un dossier préparé par Yves Terrani.
La justice valaisanne doit se réformer en profondeur.
Depuis de nombreuses années, les instances concernées le disent et le répètent. Les tribunaux sont surchargés et forcément, les dossiers s'accumulent. Une situation particulièrement tendue au tribunal cantonal et au tribunal des mineurs. Pour faire un état des lieux de notre justice, le canton a mandaté un bureau indépendant. Un bureau qui avait pour mission d'analyser la situation et de proposer des solutions. Le rapport est tombé hier après-midi. Au total, 9 recommandations sont sur la table. Cela porte sur l'organisation du tribunal cantonal par exemple, la gouvernance du ministère public ou le nombre de tribunaux de district qui devraient être réduits. Mais l'un des points principaux, il faut revoir à la hausse le nombre de juges. Frédéric Favre, le conseiller d'État en charge des institutions.
Oui, c'est juste et c'est pour ça que le Conseil d'État a donné des ressources supplémentaires ces dernières années et a soutenu une augmentation des emplois au tribunal cantonal, dont pour le tribunal des mineurs. Et la commission de justice a soutenu encore plus loin ce renforcement de la justice. Donc on voit vraiment qu'il y a un besoin.
On a vu également qu'il faudrait améliorer, ou en tout cas recentrer le ministère public. Là encore, il faudrait un super procureur, c'est ça qui pourrait ressortir?
Non, je crois pas. Il faut surtout avoir une hiérarchisation qui soit claire. Là, on a plutôt un collège au niveau du ministère public, au niveau central, et ça pose des questionnements, parce qu'à un moment donné, si vous avez un patron, il faut qu'il puisse décider librement. Donc ça va devoir être analysé. Est-ce que le fonctionnement valaisan, parce qu'apparemment il serait unique, il fait toujours sens 10 ans après l'introduction des ministères publics? C'est une vraie question.
Il faudrait un procureur général qui puisse prendre des décisions plus rapidement, sans forcément se concerter et perdre du temps.
Alors c'est une possibilité, hein. On a, on le voit bien par exemple, un chef de département qui peut décider dans son département, mais après lorsque c'est le Conseil d'État, c'est un collège de 5, ça prend plus de temps, il y a des facteurs de contingence. Est-ce que ça c'est un fonctionnement qui est adapté pour le ministère public? Pas sûr, il faut le remettre en question et puis après on verra avec les analyses, est-ce qu'il y a quelque chose à changer?
Le Conseil d'État va désormais étudier ses propositions et les possibles changements législatifs qu'elles impliqueraient. Un sujet réalisé par nos confrères de Rhône FM. Le PLR, l'UDC et le Centre s'allient dans la course au Conseil d'État vaudois. Les 3 partis présenteront une liste commune de 5 candidats dès le premier tour de l'élection à l'exécutif cantonal, programmée le 20 mars. Dans un communiqué envoyé ce matin, les 3 partis parlent d'une alliance inédite, rassembleuse et ambitieuse, large et destinée à s'élargir dès le deuxième tour de l'élection au Conseil d'État. Ils relèvent aussi que cette collaboration vise à renverser une majorité politique qui a failli, la gauche étant majoritaire au gouvernement vaudois depuis 2011. Le communiqué ne donne pas le nom des 5 candidats qui se présenteront sur cette liste commune, mais le PLR avait déjà lancé la sortante Christelle Luisier ainsi que les conseillers nationaux Isabelle Moret et Frédéric Borloo. L'UDC partira avec un autre conseiller national, Michael Buffa. Cette alliance sera notamment opposée à celle de la gauche qui propose un ticket à 4 avec les ministres socialistes sortantes Nouria Gorité, Cécile Amarel et Rebecca Ruiz. Elles feront liste commune avec le vert Vassilis Venizelos.
La dernière séance de l'année s'est passée sereinement au conseil communal dans Mont-Dessous hier soir.
Les 5 préavis à l'ordre du jour ont été largement acceptés. Le budget communal 2022 n'a suscité aucune objection, ainsi que la demande de crédit pour financer l'étude dédiée au développement du plateau des Mosses. Figurait également au menu des discussions la fixation des plafonds d'endettement, une demande de crédit pour financer les travaux de la route des Vouettes, endommagée par un éboulement en juillet 2021. Enfin, la résiliation de la concession de la Société de l'eau du CP a été acceptée. Elle sera effective le 1er janvier 2022, modifiant ainsi le règlement sur la distribution de l'eau. Les cigarettes électroniques seront soumises à l'impôt. Le Conseil fédéral a mis en consultation aujourd'hui un projet allant en ce sens. La facture sera cependant moins élevée que pour les cigarettes traditionnelles. L'impôt doit en effet tenir compte du potentiel moindre de nocivité des e-cigarettes. La charge fiscale sera ainsi inférieure d'environ 77% à celle des cigarettes traditionnelles.
Les conducteurs de vélos électriques devront circuler avec les feux allumés également de jour. Excusez-moi Thierry.
Pas de souci, cette mesure décidée par le gouvernement entrera en vigueur le 1er avril 2022. De plus, les vélos électriques rapides dotés d'une assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h devront être équipés d'un compteur de vitesse. Cela pour que les limitations de vitesse soient respectées, notamment dans les zones 20 et 30 km/h.
Le Parlement fédéral a terminé ce matin à Berne sa session d'hiver avec 21 votes finaux.
Et il n'y a pas eu de surprise, les chambres ont bouclé la réforme de l'AVS, l'âge de la retraite des femmes passera à 65 ans, avec des compensations transitoires pour les femmes de 56 à 64 ans et un relèvement de 4 dixièmes de TVA pour financer le premier pilier des retraites. Les votes ont d'ailleurs été compacts dans les deux chambres ce matin. La droite et le centre ont soutenu la réforme, la gauche verte et socialiste s'y est opposée. Avant ce vote final, l'Union syndicale suisse avait déjà annoncé le lancement d'un référendum pour contester cette décision. Son président, le conseiller national socialiste vaudois Pierre-Yves Maillard, s'interroge.
Il faudrait se poser quelques questions à part ça. D'abord, est-ce qu'il y a du travail pour les gens qui ont 60 ans et plus? Quand quelqu'un cherche du travail déjà à partir de 50 ans, c'est la croix et la bannière. Deuxièmement, est-ce que si 50 000 femmes restent chaque année en plus sur le marché du travail, est-ce qu'on ne doit pas payer d'autres gens au chômage, par exemple, qui pourraient occuper ces places? Puis troisième question, c'est est-ce que les rentiers, quand ils sont à la retraite, est-ce que vraiment ils ne font rien? On sait, par exemple, les rentiers, particulièrement les femmes, fournissent pour 8 milliards de francs par année de garde d'enfants gratuite. Si seulement 10% de ces 8 milliards sont perdus par cette prolongation de l'âge de la retraite, on a déjà perdu l'économie que les partis de droite entendent faire.
Des élus de droite qui comptent, car sans réforme, le fonds de l'AVS sera à sec dans moins de 10 ans. La gauche refuse-t-elle de voir ces chiffres? Pierre-Yves Maillard.
Ils ont refusé là une proposition qu'on avait créée avec l'UDC, les Verts et le PS. On avait une solution qui rapportait plus d'argent pour l'AVS que la hausse de l'âge de la retraite des femmes. C'était d'affecter les taux négatifs de la BNS, soit environ 11-12 milliards qui ont été déjà accumulés, plus 1 à 2 milliards par an. Ça fait de mal à personne. C'est entre 11 et 20 milliards à prendre à la BNS qui a 1000 milliards de capital. Mais ça, le PLR et le PDC ont enterré cette proposition au Conseil des États, à eux seuls. Ils ont, à 30% de l'électorat, empêché une réforme qui aurait amplement remplacé cette mauvaise réforme qui a été votée.
C'est le peuple qui tranchera en 2022. La bataille s'annonce rude, selon le président de l'Union syndicale suisse.
Pour nous, c'est la bataille de la décennie qui s'ouvre là. Pendant deux ans, on va parler de système de retraite. C'est un vrai enjeu de société. Est-ce que ce pays est capable, comme il l'a été dans les décennies passées, de fournir à celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie une rente décente à partir de 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes? Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'égalité réelle entre les hommes et les femmes, il nous semble que c'est le système que la Suisse peut encore financer comme elle l'a fait dans les années 70. S'ils avaient pensé à l'époque comme les partis de droite pensent aujourd'hui, on aurait un âge de retraite qui serait à largement plus de 70 ans, avec des rentes deux fois inférieures. Donc il y aura une vraie bataille, très très dure, avec beaucoup de moyens en face, mais on s'y prépare.
Un dossier préparé par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. À l'étranger, les cas de coronavirus attribués à Omicron explosent en Afrique du Sud. Mais les cas graves, eux, restent bien moins nombreux que lors des précédentes vagues. Selon le ministre de la Santé, Joe Pala, ces données ne signifient pas qu'Omicron est moins virulent, mais plutôt que les vaccins permettent de prévenir les maladies graves. Les personnes âgées sont les plus exposées au risque de développer des symptômes graves.
L'Éthiopie risque de sombrer dans une violence généralisée aux conséquences majeures.
C'est ce que craint l'ONU, qui a fait part de ses peurs lors d'une réunion extraordinaire aujourd'hui. Un conflit oppose depuis maintenant des mois l'armée gouvernementale aux séparatistes du Tigré. Ces violences dans le pays vont d'exécutions extrajudiciaires à de la torture, en passant par des déplacements forcés ou des abus sexuels. Au total, plus de 2 millions de personnes ont été déplacées ou sont réfugiées. Des centaines de milliers sont confrontées à des conditions proches de la famine, selon les Nations Unies. Moscou appelle à la fin des sanctions bancaires visant l'Afghanistan. Cela dans le but d'éviter une crise migratoire qui verrait des centaines de milliers d'Afghans tenter de rejoindre l'Europe. L'Union européenne avait déjà été déstabilisée en 2015 par un afflux migratoire sans précédent. Des millions de Syriens, d'Afghans et d'Irakiens fuyant la misère et la guerre dans leur pays. Et on ouvre notre page sport avec du football. L'équipe de Suisse devra se déplacer deux fois pour lancer la prochaine édition de la Ligue des Nations. Pour commencer, la Nati se rendra en République tchèque le 2 juin, avant d'aller défier le Portugal trois jours plus tard. Dans la foulée, les hommes de Murat Yakin évolueront par deux fois à domicile. Ils accueilleront l'Espagne le 9 juin, puis le Portugal le 12. Les deux ultimes rencontres se tiendront quant à elles au mois de septembre 2022. Dans ce groupe 2 de la Ligue A, le vainqueur sera qualifié pour le Final Four, alors que le dernier sera relégué à l'échelon inférieur. Toujours en football, l'ancien président de l'association suisse de football, justement Marcel Mathier, est décédé. Élu à la tête de l'ASF entre 1993 et 2001, l'avocat valaisan s'est éteint dans la nuit de mercredi à jeudi. Il a succombé à une longue maladie.
En hockey sur glace, la Suisse a lancé son tournoi de Viège par une victoire.
Pour cet ultime rendez-vous avant les Jeux Olympiques de Pékin, les Helvètes ont fait leur entrée face à la Lettonie. Et devant le public au Valaisan, la Nati s'est imposée. Elle a disposé de son adversaire sur le score de 2-1. Un résultat logique, mais qui aurait transcrit aussi les difficultés rencontrées par la sélection nationale sur le plan offensif. Lors de chaque match disputé cette saison, les Suisses ont peiné en attaque. Ils ont surtout manqué d'efficacité. Au moment de peaufiner les derniers détails en vue des JO, cette lacune doit être corrigée. Pour le sélectionneur Patrick Fischer, le temps presse.
Pas encore demain, mais quasi, oui, c'est prêt. Il y a quelques semaines, on va aller à Peking et on est motivé. Mais maintenant, on doit encore faire des choses importantes et une chose demain.
Il y a un plan A et un plan B avec ces joueurs de NHL dont on ne sait pas s'ils vont venir.
Oui, c'est ça. On doit être prêt pour toutes les options. Maintenant, c'est avec la situation de Covid, on ne sait jamais.
Des propos recueillis par nos confrères de Rhône FM. À noter qu'un deuxième match attend l'équipe de Suisse ce soir dans le tournoi international de Viège. Les Helvètes défieront la Slovaquie sur les coups de 19h45.
En biathlon, l'hiver du Bellerin Valentin Dauphin est bel et bien lancé.
Après une dernière saison fortement perturbée par la crise sanitaire, le Chablaisien a pu renouer en fin de semaine passée avec le circuit junior de la Coupe du Monde. Et si tout ne s'est pas idéalement passé lors de cette rentrée, le coureur de 20 ans s'est bien rattrapé mercredi. Sur un sprint de 10 km, le jeune Vaudois s'est classé 18e. Un résultat encourageant pour la suite de son hiver. Depuis le début de sa carrière, le membre du cadre C de l'équipe de Suisse a toujours progressé. Il a franchi les échelons les uns après les autres. Pourtant, rien n'est acquis pour un athlète roman dans ce sport. La concurrence ne bat pas son plein. Valentin Dauphin revient sur ce qui le motive au quotidien.
C'est de s'entraîner un maximum le mieux possible. Puis ensuite, regarder l'hiver, comment ça se passe. Et puis on se situe au niveau des classements par rapport aux autres années, sur les skis et tout. Puis changer par rapport à ça. Et j'ai aussi la contrainte, c'est que je suis roman. Et du coup, il faut que je sois vraiment dans les meilleurs, parce que si je suis dans les derniers, moi, j'ai pas beaucoup de chance de rester dans le cadre. Du coup, c'est aussi ça qui me pousse à être le meilleur, puis à rester dans le cadre.
Et cette génération dont vous faites partie, celle qui est donc aux portes de l'élite en Suisse, est-ce que c'est vraiment une génération prometteuse ? Comment on peut la qualifier ?
Il y a beaucoup de potentiel dans l'équipe. Après, il faudrait que on arrive à trouver quelques aides, on va dire, niveau boulot, sport. Ce que les autres nations, typiquement l'Italie, arrivent à faire avec les gardes frontières, l'armée, comme ça. Ils n'ont pas besoin de trouver un boulot à côté, ce qu'on a un peu moins en Suisse. Et du coup, je pense que si on arrive à s'entraîner un peu plus, puis être un peu plus professionnel, il y a vraiment quelque chose à faire.
Valentin Dauphin au micro de Julien Traxel. Pour le biathlète de B, la saison 2021-2022 sera marquée par deux objectifs de taille, les championnats d'Europe junior en Slovénie, puis les mondiaux juniors aux États-Unis à la fin du mois de février.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec la bijouterie Exner à Monthey, la bijouterie Exner, le créateur de vos envies.
Du Stratus en pleine pour ce vendredi. Il sera tenace, ce Stratus. Sinon, au-dessus de celui-ci, c'est-à-dire vers les 1000-1200 mètres d'altitude, il y a du soleil. Et il fait plutôt agréable, hein, puisque à 2000 mètres, c'est 6 degrés qu'on annonce au meilleur de la journée. Je dis agréable, hein, bien sûr, pour cette saison. À 1000 mètres, c'est 3 degrés. Et puis, en pleine, 4 degrés de prévu pour ce vendredi. Pour ce week-end, même type de temps annoncé par Météo Suisse, avec un Stratus qui aura son sommet vers 1100 à 1400 mètres d'altitude. Il va faire de moins 3 à 4 degrés en pleine, de moins 6 à 4 degrés à 1000 mètres et de 0 à 5 degrés à 2000 mètres.